Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On se déteste, on se déchire. On se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul.
Bon, alors, c'est pas forcément vrai, on n'est pas toujours tout seul au monde, hein, puisque heureusement, il y a des associations étudiantes, donc, qui font en sorte justement qu'on ne soit pas tout seul au monde. Et Daphné est venue nous parler de l'association du frigo, on l'appelle un peu comme ça. Alors, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette association, exactement, déjà son nom et son site internet sur Facebook, elle est très présente. Et une initiative qui est vraiment, vraiment audacieuse. Daphné, bienvenue, bonsoir dans cette émission Les uns les autres de ce 6 novembre 2023.
Merci. Donc, le comité du frigo, c'est un comité qui s'occupe de gérer un frigo solidaire, un frigo communautaire, où les étudiants ou tout le monde en général peuvent venir déposer des aliments là et les étudiants peuvent venir s'en servir là. Le but, c'est surtout de lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a un frigo à chaque campus de l'Université de Sherbrooke. On en a un au campus principal, il y en a un à la faculté de médecine et il y en a un au campus de Longueuil. C'est un comité différent pour chaque campus qui s'occupe de gérer le frigo. Et on a aussi des partenariats avec certains commerces qui viennent porter leurs invendus alimentaires. En fait, on a des bénévoles de notre comité qui vont chercher leurs invendus alimentaires pour les amener à notre frigo pour éviter le gaspillage alimentaire.
Donc, c'est à la fois une vocation écologique, si on peut dire, hein?
Ouais, le but, c'est surtout écologique, limiter le gaspillage alimentaire, mais c'est aussi
solidaire. Une vocation sociale, voilà.
Ouais, qu'on peut s'en prendre gratuitement. Et notre comité a aussi pour but de faire des activités de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Ouais. Donc, par exemple, mercredi, on organise un atelier de cuisine de citrouilles pour récupérer des citrouilles d'Halloween qui ont été décorées.
Oui.
Et aussi...
Et vous allez les cuisiner, en fait.
Oui, on va cuisiner pour limiter le gaspillage alimentaire. On a aussi d'autres conférences qui s'en viennent, comme par exemple, jeudi, on organise une conférence sur le déchetarisme, le dumpster diving.
C'est quoi, exactement?
C'est en fait le fait de fouiller les poubelles pour ramasser la nourriture, là,
ouais.
Pour éviter qu'elle soit gaspillée.
D'accord, c'est-à-dire que l'association va fouiller les poubelles?
En fait, notre organisation ne fait pas ça, mais on organise une conférence là-dessus.
Au-dessus de ce thème, d'accord.
On invite quelqu'un qui vient parler de ça, parce que c'est en lien avec le gaspillage alimentaire. Et notre mission, c'est vraiment de limiter le gaspillage alimentaire, surtout à l'aide du frigo. Mais on essaye aussi de faire autre chose.
D'accord. Et cette association, elle représente combien de personnes à l'université?
On est environ une vingtaine de personnes, en fait.
D'accord.
On a un comité exécutif qui est environ 8 membres. On s'occupe des communications, de la coordination des bénévoles. Et on a des bénévoles qui vont chercher la nourriture, nettoyer le frigo.
D'accord.
Il y en a environ une quinzaine.
Oui, donc c'est quand même une mobilisation importante en termes de temps.
Ouais, et ça, c'est juste pour le campus principal. Les autres campus ont aussi leur propre comité avec leurs propres bénévoles.
Ouais.
Donc, c'est quand même un gros projet.
C'est quand même un gros projet, effectivement.
Ouais.
Et comment... Alors, toi, tu es étudiante en première année, tu m'as dit, de...
Ouais. Je suis étudiante en première année au bac en informatique quantique.
C'est pas rien.
Ça n'a aucun lien avec le comité, mais je suis quand même impliquée.
Le nom, ça fait peur, informatique quantique.
Ouais,
quand même.
Je sais.
Hein. et comment on vient à l'informatique quantique alors?
Je sais pas. Moi, je me suis inscrite là parce que je trouvais que ça avait l'air intéressant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'informatique. Ouais. J'aime ça résoudre des problèmes. J'aime ça les défis. Et ça avait l'air stimulant intellectuellement pour moi, ce baccalauréat-là.
Ça tombe bien, moi j'ai un défi à te proposer, c'est régler la résolution de mon écran qui me fait des misères. Il dépasse, je n'arrive pas à le remettre droit. Bon, j'ai essayé avec Linux et Windows, aucun des deux qui marche. Enfin bon, bref, voilà, c'était juste une aparté. Et quand tu es venu à l'université, comment t'as entendu parler de cette association et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer?
Bien, moi, je suis quelqu'un qui aime ça m'impliquer, donc je regardais un peu les différents comités qui existent à l'université pour savoir lequel je voulais m'impliquer. Et la mission du frigo, ça me rejoignait. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose pour lequel c'est important de lutter. Et je trouve que le frigo solidaire, c'est vraiment un beau projet. Ça permet de vraiment avoir un impact concret, de diminuer le gaspillage alimentaire et d'aider aussi
les personnes en difficulté.
Ouais, les personnes en difficulté financière.
Ouais. Et pourquoi tu t'es sentie impliquée par cette cause-là? C'est vrai, ça aurait pu te... Parce qu'il y a plein d'associations, il y a plein de causes. Pourquoi celle-ci en particulier?
L'environnement, ça a toujours été une cause qui est importante pour moi. Et cette cause-là du gaspillage alimentaire, ça rejoint ça, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de choisir. Là. Mais ouais, c'est important, le gaspillage alimentaire. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le gaspillage alimentaire, c'est faut faire de quoi contre ça.
Bah, surtout quand il y a des gens qui, eux, par contre, voilà, ont faim, si on peut dire.
En plus.
Donc c'est effectivement un équilibre important. Est-ce que cette association elle existe ailleurs qu'à Sherbrooke ou alors c'est vraiment local?
En fait, il existe des frigos frigo comme qu'on les appelle un peu partout à travers le Québec.
D'accord.
Notre comité s'occupe vraiment de gérer le comité du campus principal, mais oui, il y a des frigos un peu partout, puis même...
Dans d'autres villes du Québec, etc.
Oui, dans d'autres endroits, il commence à y avoir... Ça devient un concept de plus en plus populaire aussi, les frigos solidaires.
Ouais.
Surtout en ce moment, avec le prix des aliments qui monte, puis les gens qui ont de plus en plus de difficultés financières. Donc, c'est vraiment un concept qui commence à devenir de plus en plus populaire.
Elle est née quand, cette association? Elle est ancienne? Elle est récente?
Ça fait quelques années... Au début, c'était pas un comité universitaire, c'était un autre comité de la ville de Sherbrooke qui
D'accord.
a mis des frigos. Je me souviens plus, je pense que ça date de 2018-2019.
Ouais, donc c'est assez récent quand même, ouais.
Ouais, assez récent.
Et ça a pris une ampleur importante parce que c'est vrai qu'on entend parler de cette association. Sur Facebook, elle est très suivie aussi, j'ai remarqué.
Oui, les D'ailleurs... gens veulent savoir quand est-ce qu'il y a de la bouffe qui arrive au frigo.
et comment ça se passe un peu la distribution? Alors, on dépose les aliments dans le frigo, mais ensuite, ça se passe comment? Les gens viennent et se servent en fait?
Oui, tu peux déposer de la nourriture dans le frigo et rapidement, quelqu'un va le prendre.
D'accord. Et je veux dire, ça se passe bien, les gens sont... Enfin, je dirais pas des gens qui viennent rapia et qui prennent tout pour eux. Enfin, je dirais qu'il y a un certain sens du partage.
Ouais, je dirais que oui. En fait, on a comme règlement limite de prendre 5 aliments par jour.
D'accord.
On peut pas toujours surveiller, donc...
Ouais, c'est pas toujours évident.
Il y en
ouais.
a peut-être qui en prennent plus, mais on essaye de s'assurer que le monde en prenne 5.
D'accord.
C'est vraiment écrit sur la porte du frigo que maximum 5 aliments par personne.
Et au niveau de l'équilibre alimentaire, il y a un peu de tout ou alors il y a plus certaines choses que d'autres? Qu'est-ce qui est déposé en général?
C'est sûr que les aliments périssables sont plus souvent là que les aliments non périssables. On a quand même...
Ah, il y a plus de périssables que non périssables. D'accord.
En fait, le but, c'est de limiter le gaspillage alimentaire, donc ce qui est non périssable, les gens habituellement le consomment. Mais on a ouais. quand même des fois des aliments non périssables, mais c'est surtout des aliments qui risquent de ne plus être bons bientôt que les gens viennent porter. Mais en fait, le gros de notre nourriture, ça vient de nos partenaires. On a 3 partenariats principaux, un avec le marché végétarien,
D'accord.
un avec la cafétéria de l'école et un avec la coopérative alentour. Donc, à chaque semaine, on va chercher de la nourriture de ces partenaires-là et des fois, le frigo il est rempli, ouais. Mais ça se vide assez rapidement.
Ben oui, j'imagine. Est-ce qu'on constate d'ailleurs une hausse de la demande?
Je sais pas, là. Ben, sûrement, là, mais moi, on regarde pas qui demande, on fait juste déposer la nourriture dans le frigo et c'est tout, là. Puis ouais. Ça part assez vite.
Ça part assez vite quand même, ouais. Ce qui traduit quand même qu'il y a quand même des besoins, quoi.
Ouais.
Dans la population étudiante y compris.
Ouais.
D'accord. Et ces partenaires, alors, comment ils ont noué ce lien avec cette association?
En fait, en général, c'est nous qui allons les chercher. Ouais. Au début de l'association, on a fait des demandes à plusieurs épiceries, boulangeries, etc., pour solliciter un partenariat.
Ouais.
Il y a d'autres épiceries qui ont déjà des partenariats avec, par exemple, Moisson Estrie.
D'accord.
Donc, ils n'ont pas besoin d'aller les porter à nous autres qui ont déjà un partenariat, mais on a quand même réussi à avoir...
Trois partenaires quand même solides, quoi.
Ouais, quand même solides. On a eu d'autres partenaires par le passé qu'on n'est plus partenaire, puis peut-être qu'éventuellement, on aura des nouveaux partenaires.
D'accord. Alors, premier petit passage musical. Bon, on va commencer par une vieille chanson des années 80, Niagara... pendant que les champs brûlent, on verra justement, on parlera un peu des champs et de l'agriculture après cette pause musicale. Voilà une très belle chanson de Patrick Fiori, juste une raison encore, hein, je crois que c'est un de ses plus gros tubes, et c'est vrai que c'est une belle chanson de ce Corse, car il est Corse en fait. Voilà. Alors on revient avec Daphné, hein, pour évoquer la question du gaspillage alimentaire. Comment tu vois un peu justement ce gaspillage alimentaire? D'un côté, on a des publicités à la télé, on nous fait consommer, etc. D'autre côté, il y a des gens effectivement qui ont des difficultés sociales. Et puis entre les deux, il y a effectivement tout ce problème de surplus alimentaire et de nourriture qu'on gaspille. Comment tu vois un peu tout ça, toi, dans cette société aujourd'hui?
Oui, c'est sûr qu'on consomme beaucoup trop, pas juste la nourriture, mais en général, on gaspille beaucoup. C'est sûr que la nourriture, c'est beaucoup plus dommageable parce qu'il y a vraiment des gens qui en ont besoin de la nourriture qu'on gaspille. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire et pas trop consommer en nourriture, pas acheter des trop grandes quantités quand on sait qu'on...
Et qu'on gaspille après, quoi.
Ouais. Voilà. Ou au resto, quand on prend des trop grosses quantités, qu'on jette le reste à la poubelle, c'est quand même du gaspillage alimentaire.
Ce qui est pas mal dans certains restos, c'est le doggy bag, comme on dit.
Ouais.
Ça permet effectivement d'éviter de jeter ça à la poubelle, effectivement. Comment se comportent les... Alors, je sais pas comment... Je sais en France qu'on a aussi cette question-là. Comment au Québec, les épiceries, tout ça, essaye justement de gérer un peu ce problème de... Par exemple, quand les produits arrivent, commencent à arriver presque à la date limite, etc. Comment ça se gère ici?
Je ne suis pas au courant parfaitement, mais ça va surtout dans des organismes d'aide communautaire, comme Moisson Estrie, qui va redonner la nourriture aux plus démunis.
D'accord.
Ou sinon, il y a certaines... des applications mobiles qui permettent aux épiciers de dire qu'ils ont des surplus alimentaires, là, comme Too Good To Go, là, qui permet à certains commerçants de vendre au rabais les produits qui sont à veille de passer date.
C'est-à-dire qu'il y a des applications pour informer les consommateurs qu'il y a des rabais, en fait, des ventes un peu au détail, et qu'ils peuvent venir pour trouver des produits...
Ouais, j'ai jamais utilisé ça, mais genre, j'ai entendu parler de Too Good To Go, par exemple,
ouais,
qui permettent de vendre aux épiciers, de vendre au rabais certains aliments qui commencent à être moins bons.
Ouais, enfin, qui approchent la date limite, des choses comme ça, par exemple.
Pour que les gens viennent les acheter avant qu'ils soient plus bons.
Ouais, ce sont des bonnes initiatives qui permettent effectivement de à la fois le caractère social et le caractère écologique. Justement, quel est l'intérêt profondément écologique de ce genre de démarche, justement? Parce qu'on pourrait se dire, après tout, bon, on surconsomme, mais après tout, on surproduit aussi, donc c'est pas très grave. Comment tu vois ça?
Je pense pas qu'en termes de nourriture, on surproduit tant que ça, surtout avec les réchauffements climatiques qui viennent affecter les productions. Ça affecte les rendements, ce qui fait que les producteurs, en fait, ils produisent moins à cause des catastrophes naturelles qui ont diminué leur rendement. Donc, pour les autres champs, c'est vrai qu'on produit trop, mais en alimentation, on produit pas tant trop, là.
Ouais. Mais on surconsomme quand même.
Oui, on surconsomme quand même.
Comment on peut faire dans la vie quotidienne pour gérer un peu justement cette surconsommation? Bon, c'est que quand on va faire les courses avec les enfants, bon voilà, on a tendance à acheter un peu plus que ce qui est prévu. Et souvent, bah, parfois, il y a des choses qui finissent à la poubelle. Comment on peut justement informer les gens pour avoir une attitude un petit peu plus rigoureuse? Alors, l'inflation, j'ai tenté de dire ça, ça limite, mais quand même, comment on peut sensibiliser les gens par rapport à ça?
D'abord, c'est d'adopter les comportements de nous-mêmes, de montrer l'exemple en adoptant des comportements qui limitent le gaspillage alimentaire et ensuite les partager aux autres.
Ouais.
Donc, par exemple, vraiment planifier ses repas de la semaine à l'avance pour faire une liste d'épicerie et n'acheter que ce qu'on sait qu'on va
utiliser, ouais.
Ouais.
Mm-hmm.
Faire attention dans notre frigo, pas laisser des aliments pourrir dans le fond d'un bac. Mettre les aliments nouveaux plus au fond pour laisser les plus anciens plus visibles.
D'accord.
Ça permet de pas les oublier au fond du frigo si on met toujours les nouveaux.
Oui, c'est vrai. C'est
à
vrai.
L'avant. Ça peut être un truc.
Et toi-même, c'est ce que tu fais? Tu gères un peu ton...
Ouais, j'essaye de pas trop acheter. J'essaye aussi d'acheter en vrac. Il y a des épiceries en vrac où tu peux apporter tes propres contenants puis prendre vraiment la quantité dont tu as besoin.
D'accord. Et ici, à Sherbrooke, il y en a de ce...
Ouais, comme il y a le Bulk Barn.
D'accord.
Ou il y en a un autre, je me souviens plus le nom... Mais oui, il y a des épiceries en vrac où tu as vraiment tout des produits. C'est pas vraiment beaucoup de fruits et de légumes, mais des aliments périssables comme des pâtes qui ont des gros formats. Puis tu t'amènes un petit pot, tu prends un sac là-bas, tu prends la quantité que tu veux et tu achètes juste la quantité que tu veux. Ça permet de pas acheter des trop gros formats à l'épicerie.
D'accord. Ouais, donc ça évite la vente par lot, en fait, qui souvent est un peu, effectivement, les ventes par lot, bon, elles peuvent présenter des avantages un peu financiers sur le coût, mais effectivement, avec un risque après de surplus, effectivement. C'est vrai que ce genre de pratique en vrac permet sans doute, effectivement, de mieux gérer son alimentation. Et autour de toi, quand tu en parles un peu avec les autres jeunes, tes collègues étudiants, comment ils le perçoivent?
J'avoue que c'est pas un sujet qui revient très souvent dans les conversations, mais ouais, j'en parle un peu là, de faire attention quand je vois des aliments qui commencent à peut être bons, je le dis que ce serait le temps de le cuisiner là.
Ouais.
Faire attention à ça, de bien conserver ses aliments.
Et quand tu le dis, c'est perçu comment?
C'est quand même bien perçu. Ben, moi, je le dis de façon quand même gentille, de façon à aider. Puis je le dis pas tant à des gens que je connais pas non plus. Là. Donc, quand j'en parle, c'est à des gens que je connais puis avec qui je m'entends bien. Là.
Ouais. Les amis, la famille?
Ouais. Puis c'est quand même bien perçu parce que tout le monde s'entend que le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut éviter.
Et quand tu leur en parles, est-ce que tu as observé un changement dans leur comportement? Ils font plus attention? Ils tiennent compte un peu de ce que tu dis?
Je sais pas, j'observe pas beaucoup ça, là,
ouais. Non plus.
Mais ouais, je sais pas, j'en parle pas tant.
Pas tant que ça,
j'avoue.
Ouais.
Pas un sujet qui revient quand
oui,
même
parce
souvent
que c'est...
dans les conversations.
Forcément, ouais, tout à fait. Mais ils savent ton implication, tes amis,
oui.
Ta famille dans cette association?
Ouais, ils savent. Puis ils trouvent que c'est vraiment un beau projet.
Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un beau projet. Et justement, ça amène peut-être justement une prise de conscience aussi pour eux, mm-hmm. et peut-être faire plus attention de fait. Comme j'espère que justement le fait que ce soit dans cette émission permettent aussi de faire connaître aussi cette
ouais.
association, son action, son but, et de pouvoir sensibiliser les gens à ça, effectivement, pour qu'on soit tous plus vigilants par rapport à ces problèmes de gaspillage alimentaire. Et on repart sur une chanson plutôt sympathique sur le fil de Jennifer. Voilà, Jennifer sur le fil. On est donc avec Daphné de l'association Frigo et qui est venue nous parler du gaspillage alimentaire ce soir. Daphné, tu es dans l'informatique quantique. Alors, c'est un domaine quand même très particulier. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots un peu? Qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique?
OK. En gros, l'informatique quantique, c'est un domaine qui n'est pas encore tout à fait au point. C'est une technologie qui est en cours de développement. Mais ce que ça ferait, l'informatique quantique, c'est un peu comme un ordinateur, mais pas tout à fait, mais qui utiliserait des propriétés de la physique quantique pour faire des calculs qu'un ordinateur classique prendrait des millions d'années à faire. Et
ah, ça
en quelques secondes.
C'est à ce
en
point.
Quelques minutes. Ça, c'est que ça peut faire des choses qu'un ordinateur classique peut pas tout à fait faire. Ces ordinateurs-là utiliseraient des propriétés de la physique quantique pour faire.
Alors, ça consisterait en quoi? Alors, ce serait pas les petits processeurs comme on a, là, nos Intel, machin chose, AMD et autres. C'est quoi, en fait, d'utiliser de la physique quantique pour faire de. Pour faire un ordinateur, ça va être énorme.
En fait, la physique quantique, c'est infiniment petit, donc c'est quand
D'accord.
même petit. Mais en fait, présentement, pour faire en sorte que d'utiliser les propriétés de la physique quantique, ça prend des congélateurs à des températures 0 Kelvin, c'est-à-dire moins 273 environ
ah oui.
degrés Celsius. Donc, ça prend des chambres... très froide pour présentement faire fonctionner les ordinateurs quantiques qu'on a, les débuts d'ordinateurs quantiques qu'on a. Donc, ça ne va pas remplacer l'ordinateur classique.
Oui, de maison, etc. Oui, j'imagine.
Non, ça va être utilisé pour faire certaines choses qu'un ordinateur classique ne peut pas faire en ce moment, mais ça ne va pas complètement les remplacer. Ce que les ordinateurs classiques peuvent déjà faire, ils vont continuer de les faire.
Oui. Et ces applications, elles peuvent toucher dans quel domaine un peu, justement, ces applications dans l'informatique quantique?
C'est surtout de la simulation, par exemple, de la simulation de molécules.
Ouais.
Ça, un ordinateur classique n'est pas très bon, mais avec un ordinateur classique, on espère pouvoir simuler des molécules, puis peut-être éventuellement trouver des médicaments grâce à ça.
D'accord.
Ou par exemple, simuler l'environnement, le climat et des trucs comme ça. Un ordinateur classique, c'est pas très bon pour simuler le
climat. Oui, parce qu'il y a une puissance de calcul qui est faible, quoi, en fait.
Avec un ordinateur quantique, ça pourrait simuler le climat de façon beaucoup plus efficace.
Ouais.
Et ça peut faire de l'optimisation dans d'autres domaines aussi. On le sait pas encore, vu que l'ordinateur
D'accord.
classique
ah oui, c'est-à-dire qu'on a...
il n'est pas encore tout à fait au point. On est en train de le construire. Là. Il y a des débuts un peu qui fonctionnent, mais
ouais.
ce n'est pas encore...
On est vraiment à l'aube d'une nouvelle technologie
ouais.
dont on n'imagine pas encore la puissance qu'elle peut avoir, même si on commence à deviner qu'il y a une puissance derrière.
Ouais.
En quelque sorte. C'est-à-dire qu'à terme, Ça peut toucher tous les doigts. Tu me dis la santé, par exemple, hein, avec les molécules,
Le climat,
l'environnement. Ça peut être l'industrie, ça peut être la chimie, ça peut être plein de choses. Est-ce que ça peut permettre un jour, allez, rêvons un peu, hein, c'est lundi soir, bon, rêvons. Est-ce qu'avec l'informatique quantique, demain, on pourra envisager des voyages dans l'espace, aller sur Mars, etc.
Ça, je le sais pas.
Et toi, justement, dans ta formation, alors qu'est-ce, puisque c'est tout nouveau, qu'est-ce qu'on étudie dans quelque chose qui est complètement nouveau?
En fait, notre bac en informatique quantique, c'est un bac un peu interdisciplinaire.
Ouais.
Dans le fond, qu'on fait de l'informatique et de la physique quantique et aussi des mathématiques. Donc, on a des cours un peu des trois.
Ouais.
Parce que ça prend un peu les trois connaissances pour pouvoir étudier là-dedans. Parce qu'avant ce bac-là, les gens qui travaillaient en informatique quantique, c'était tous des doctorants ou des maîtrises.
Ouais.
Donc, ils ont créé le bac pour que les gens, pour pas avoir besoin d'un doctorat pour travailler en informatique quantique. Parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui
s'y intéressent.
Ouais, surtout des grosses compagnies comme Google, IBM, mais aussi des petites start-up comme Nord Quantique qui vient de Sherbrooke.
C'est donc une filière assez récente?
Oui, c'est en développement, là, c'est vraiment en expansion.
Vous êtes combien d'étudiants là en première année, par exemple?
En fait, on est la deuxième cohorte.
D'accord. Oui, c'est tout neuf, donc.
Ouais, la cohorte avant nous, ils sont 14, je pense. Nous autres, notre cohorte, on est environ 21 pour l'instant. Juste la première session, donc ça se peut qu'il y en ait qui lâchent entre-temps.
Une filière d'élite, on peut le dire?
Je sais pas si c'est élite, mais... en fait, c'était pas un programme contingenté, vu qu'il y a pas beaucoup de monde qui sont inscrits non plus. Donc, je sais pas si c'est élite, là, mais c'est quand même du monde... qui ont des bonnes notes.
Enfin, voilà, oui, j'imagine quand même qu'il faut avoir un sacré niveau, parce qu'entre les mathématiques, que j'imagine ne pas être les mathématiques comme moi je les pense, la physique et l'informatique, c'est quand même... oui, il faut quand même... il doit falloir quand même un sacré niveau. Tu avais fait quoi avant d'arriver à cette filière?
Avant, j'étais au cégep,
En
pré-universitaire, sciences informatiques et mathématiques.
Déjà?
Ouais, je savais déjà que je m'alignais vers l'informatique et ensuite, quand j'ai cherché quel bac je voulais faire, au début, je pensais faire juste informatique, mais j'ai vu informatique quantique et je trouvais que ça a l'air intéressant.
Et tu t'es dit, je me lance ce défi.
Ouais, puis au pire, je retourne en informatique. Je trouvais que c'est une belle opportunité puis je voulais pas la rater. Ouais.
Et comment... ça vient d'où ce goût de l'informatique? C'est... Enfant, déjà, tu étais passionné par les ordinateurs? Tu as toujours été attiré un peu par ça?
Pas depuis que je suis enfant. Ça vient du secondaire. J'ai eu un cours une fois où on a fait un petit peu d'informatique, puis j'ai vraiment aimé ça. Je savais déjà que j'aimais les maths. Depuis que je suis petite, j'aime ça, les mathématiques. Et dans l'informatique, j'ai retrouvé vraiment ce que j'aimais des mathématiques, c'est-à-dire résoudre... des problèmes. Et ensuite, au cégep, j'ai eu plus de cours d'informatique, puis ça m'a vraiment...
Plus quoi?
Concerné. Ouais, ça m'a indiqué que c'était vraiment là-dedans que je voulais aller.
Et bon, je suppose que toi, quand Windows y plante, tu résous le problème en 3 secondes.
Non.
Non, néanmoins?
Non, moi, à date, j'ai surtout eu des cours de programmation, donc c'est créé un peu... des programmes, donc pas résoudre les problèmes de Windows. Qui
bon, de toute façon, je crois que c'est résolu. Pour Windows, c'est résolu. Mais qu'est-ce que c'est que créer des programmes? C'est quoi comme programme qu'on crée?
À date, j'ai surtout vu la base. J'ai pas eu tant de cours d'informatique que ça. Mais c'est difficile à expliquer, mais c'est d'écrire le code derrière les applications. Là.
Donc tout ce qu'on voit là sur les écrans bizarres des fois, tous les codes, etc. Ça, c'est ça, la création de programmation informatique. C'est ce qui permet de faire fonctionner tout le reste, en fait. C'est les fameux codes sources, comme on dit.
Ouais.
D'accord. Et donc toi, tu travailles dans ce domaine et tu arrives à bien comprendre ça déjà. Bon, de toute façon, déjà, pour que tu sois dans cette filière, c'est sans doute le cas. Mais je veux dire, ça doit quand même être très complexe. Pour moi qui suis un littéraire, ça me paraît être un autre monde, mais...
Complexe, mais en même temps, ce qui aide, c'est d'avoir Google pour chercher quand on ne sait pas quoi faire.
D'accord, ok.
Une bonne partie de la job de programmation, c'est de chercher sur Google parce qu'on ne connaît rien par cœur.
Oui, j'imagine.
Par cœur. Donc, quand on veut faire de quoi, on cherche sur Google comment faire. Puis quand on voit une... ou quand on doit écrire du code, qu'on voit une commande qu'on ne connaît pas, on cherche sur Google. Donc, ce n'est pas tant par cœur... C'est
du raisonnement, en fait.
Oui, c'est surtout du raisonnement. On n'a rien besoin de cœur parce qu'on a Google.
Oui, parce que moi, j'imagine que si je tape sur Google une programmation de je ne sais pas quoi ou d'un code de je ne sais pas quoi, de toute façon, je n'y comprendrai rien. Donc, c'est quand même...
on connaît la syntaxe, comment écrire des programmes, mais ensuite, c'est beaucoup Google.
On pourrait dire que c'est un peu comme le droit, finalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître tous les codes par cœur, mais c'est des techniques de recherche, d'interprétation, etc. Ça ressemble un peu au droit, d'une certaine manière, à ce niveau-là. Mais quand même, alors je suppose que tu connaisses sur différents types de langages. Moi, je me rappelle, je suis un peu vieux, mais je me rappelle une époque où on parlait de langage ASCII, etc. Ça existe encore, ces choses-là?
Il y a plusieurs langages de programmation. Je ne connais pas ASCII, mais moi, je connais Java.
Java, oui, d'accord.
Ouais, je sais aussi faire du C++, du C# et du Python.
OK.
J'ai appris quelques langages au cégep et d'autres à l'université. Mais il y a beaucoup, beaucoup de langages de programmation. Mais je dirais que ce que je connais, c'est les principaux.
On se sert beaucoup de Python, d'ailleurs, sur Linux.
Ouais.
Pour tout ce qui est communication et choses comme ça, en fait, les protocoles, connexion et autres.
Ouais, chaque langage a ses propres spécialités. Il y en a certains qui sont meilleurs pour les jeux vidéo, par exemple.
D'accord.
D'autres qui sont meilleurs pour des applications web.
Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on apprend à programmer là aussi, ça peut servir, y compris pour le grand public, par exemple pour les jeux, par exemple, mais aussi pour leur informatique personnelle?
Je ne sais pas pour l'informatique personnelle. Les cours d'informatique, sûrement qu'on apprend ça. Moi, j'ai surtout eu des cours de programmation, c'est-à-dire créer...
Vraiment sous le capot, au cœur de la machine, en fait.
Ouais, on n'est pas vraiment... Ouais, on est quand même...
À la base, à la source, quoi, en fait.
Mm-hmm.
Donc, en fait, les travaux des gens qui travaillent dans ce domaine servent ensuite pour des applications compliquées par toutes les entreprises. Mais je veux dire, là, vous êtes vraiment, vous, au cœur vraiment de l'informatique pure, en quelque sorte.
Ouais.
Et comment tu observes un peu le développement de l'informatique autour de toi? Par exemple, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça te dit à toi, justement, qui est un peu dans ce domaine?
Moi, je trouve ça fascinant, l'intelligence artificielle. J'aime ça essayer de comprendre comment ça marche.
Ouais.
Mais c'est sûr que ça prend un peu des balises pour encadrer l'utilisation. Parce que on le voit avec les fausses vidéos, ce que ça peut faire.
Les deepfakes.
Ouais, les deepfakes. Et ouais, c'est sûr que lorsque l'intelligence artificielle s'est utilisée... d'une mauvaise façon, ça a des impacts négatifs. Mais utiliser de bonne façon...
Comme toute technologie, je suis tenté de dire.
Oui, toutes les technologies, c'est surtout comment qu'on l'utilise. C'est pas la technologie en soi.
En elle-même, c'est... Voilà, c'est
l'intelligence artificielle, elle est ni mauvaise ni bonne en elle-même. Elle a aucune morale, c'est comment on l'utilise.
C'est un instrument, un outil. C'est comme un couteau, si on l'utilise pour... Couper le pain et le partager avec quelqu'un, c'est une chose.
Ouais.
Et d'autres vont l'utiliser pour poignarder le type et lui piquer son bout de pain. Bon, c'est pas le couteau en lui-même qui est un risque, c'est l'usager.
Oui, l'intelligence artificielle, ça n'a pas vraiment d'intelligence, c'est juste un outil technologique.
Est-ce que tu penses que un jour l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence de l'homme?
Je ne sais pas ce que ça veut dire dépasser. C'est sûr que ça peut faire des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas faire. Mais en même temps, il y a des choses que l'intelligence de l'homme peut faire que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Je suis pas assez experte pour me prononcer là-dessus. Même les experts
savent pas. Eh oui, c'est ça. Un peu comme le quantique, on est vraiment dans quelque chose de nouveau et sur lequel on spécule beaucoup, mais effectivement, sans savoir ce qui va advenir. Ben, attends, ce qui va advenir, c'est une chanson encore, ben, justement, la fameuse chanson de Niagara. C'est, ce coup-ci, c'est bon, elle est bonne. Pendant que les champs brûlent, hein, c'est presque une chanson climatique, on peut dire. Hein, ouais, bon. Niagara, c'est en 87, cette chanson était sortie. Et là, on est dans le monde, on en parlait un peu d'informatique quantique, avec Daphné. Qui est venu nous parler ce soir de l'association Frigo, qui nous a expliqué justement tous les enjeux du gaspillage alimentaire. Et Dieu sait que c'est important, effectivement, de s'en préoccuper. Et Daphné, qui est également étudiante en première année d'informatique quantique à l'université de Sherbrooke. Et on a parlé un peu d'intelligence artificielle. Même Elon Musk, hein, le grand patron de Twitter, X maintenant, je ne sais plus trop.
C'est voilà. Rendu X.
X, voilà. Lui-même, pourtant, hein, entre Tesla, l'aérospatial, etc., c'est quand même quelqu'un qui est, je veux dire, vraiment porté vers les technologies d'avenir. Et même lui s'inquiète de l'intelligence artificielle. Et Daphné nous rassure en nous disant, mais finalement, c'est qu'un outil, c'est qu'un instrument. Ça dépend l'usage qu'on en fera finalement. J'aime bien cette façon que tu as de relativiser ça, parce que ça nous ramène finalement à un discours raisonnable, quand les uns sont dans l'engouement pur et dur, d'autres dans l'inquiétude et l'angoisse. C'est bien justement d'avoir Daphné ici, qui elle nous ramène justement à des choses beaucoup plus pragmatiques, prosaïques, et à la simple, au simple bon sens, à la simple raison. Est-ce que quelque part, justement toucher de près ces technologies d'avenir qui sont encore en plein développement, embryonnaires même, on peut dire, eh bien, finalement, c'est rassurant de voir que Daphné nous ramène au bon sens. Est-ce que c'est pas ça, finalement, la vraie leçon qu'un scientifique peut nous donner? C'est nous ramener au bon sens.
Oui, la science, c'est aussi de ramener au bon sens, de ramener aux faits, de lutter contre la désinformation, parce que les médias, ils aiment.
Il y a
certaines personnes sur Internet qui aiment ça, utiliser la peur pour, par exemple, vendre des produits, vendre des idées. Donc, la science, c'est de lutter contre la désinformation, mais aussi d'alerter quand il y a des vrais enjeux, comme l'environnement. C'est grâce à la science, si on est au courant, que le climat va mal.
Donc, la science... pourtant, tous les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus.
99% sont d'accord. Les experts en climat, donc les scientifiques, c'est quand même large. Là,
Qu'on a quand même le prix Nobel de physique 2022, c'est pas rien quand même, prix Nobel de physique, qui, d'ailleurs physique quantique je crois d'ailleurs, et qui lui s'est montré un peu comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport à l'intelligence artificielle, qui a dit bon, oui, il y a des choses, mais il ne faut pas non plus... partir dans des délires, un peu comme les gens qui partent dans des délires avec l'intelligence artificielle et qui s'imaginent que ça y est, demain ça va être Terminator, quoi. Est-ce qu'on a demain un risque d'avoir Terminator, des robots intelligents qui prennent le dessus sur les hommes avec l'intelligence artificielle?
Pas de cette façon-là, mais il faut quand même faire attention avec l'intelligence artificielle, comment que c'est utilisé. Dans certains pays, par exemple en Chine, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour surveiller la population. L'intelligence artificielle, ça peut aussi être utilisé, par exemple, par Facebook pour influencer...
l'opinion des gens?
Ouais, donc il faut quand même faire...
Est-ce que c'est un risque démocratique, de ce fait? Facebook ou la Chine, par exemple?
Ça pourrait, il faut faire attention, là. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est sûr qu'il faut faire attention, vu qu'on est quand même humain, on est influençable. Et si on passe beaucoup de temps sur Facebook, c'est sûr que le contenu, ça risque...
peut nous altérer, d'une certaine manière, notre discernement.
Ça peut nous influencer. On est influencé par ce qu'on voit. Et quand on consomme beaucoup de médias, ça nous influence. Sinon, il n'y aurait pas de publicité.
Oui.
Les entreprises ne payeraient pas pour de la publicité si ça ne nous influençait pas.
Et comment justement on peut réussir dans un monde qui est quand même très envahi, comme tu le dis, par les médias, la publicité, les réseaux sociaux, etc. Comment on fait pour garder la tête froide et rester distant vis-à-vis de tout ça?
D'abord, je dirais que le truc numéro un, c'est de limiter notre consommation de médias, pas aller sur les réseaux sociaux quand on n'en a pas de besoin. Donner une limite de temps, ça peut être bien pour...
Ouais. Et revenir à des choses peut-être plus... moins technologiques, comme par exemple les livres, les amis, la rencontre avec les autres.
S'impliquer dans des organisations, là, comme moi je m'implique dans le comité Frigo, ça
tout
me permet de rencontrer du monde, mais il y a aussi plein d'autres organisations, autant à l'université qu'en dehors de l'université. Il y a beaucoup d'endroits qui recherchent des bénévoles, ça peut être une bonne façon de rencontrer du monde tout en ayant un impact positif sur le monde, puis de nous aider à déconnecter des réseaux sociaux, de plus être sur nos réseaux sociaux, parce que souvent, on a tendance à faire ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Là. Quand on a du temps libre, notre premier réflexe, c'est souvent de sortir ça. Mais il faut faire attention, de quand on a ce réflexe-là, de ne pas le faire juste parce qu'on s'ennuie.
Le lien humain, l'action solidaire, l'action avec les autres, associative, c'est peut-être là la réponse justement par rapport à tous ces risques.
C'en est une. Pour moi, ça m'aide à créer des liens sociaux. C'est aussi de ne pas sortir son téléphone par réflexe dès qu'on a 5 minutes de libre.
Ouais.
D'apprendre à attendre en faisant autre chose que d'être sur nos réseaux sociaux.
Tu te rends compte que c'est un discours qui n'est pas fréquent, notamment, bah, tu as 19 ans en plus.
J'ai aussi de la misère avec ça des fois, mais j'essaye quand même.
Est-ce que justement c'est ta connaissance, bien plus grande que la plupart d'entre nous, moi y compris d'ailleurs, des sciences, de l'informatique, de leur puissance qui te permet justement d'avoir ce recul, cette prise de distance?
Je pense pas que c'est nécessairement le fait que je sois en informatique, parce que je connais quand même d'autres personnes en informatique qui sont souvent sur leurs réseaux sociaux, mais je dirais que c'est surtout parce que je m'intéresse au monde, que je lis beaucoup, que j'essaye d'apprendre à être une meilleure personne. Puis je me rends compte que quand je suis sur les réseaux sociaux, je suis pas nécessairement heureuse, que ça me distrait, que ça me fatigue, donc j'essaye...
Quelle lecture t'a marqué un peu? Tu me dis je lis. Qu'est-ce qui t'a marqué un peu comme livre?
C'est dur de choisir juste un. Là. Je lis beaucoup de livres. Ça m'aide vraiment à m'ouvrir sur le monde, à comprendre vraiment, à mettre à la place des autres.
D'accord.
Puis je lis beaucoup de genres de livres. Je lis beaucoup de livres scientifiques, aussi des livres de science-fiction, des livres psychologiques. Des romans d'aventure. Là, je lis un peu de tout. J'essaye de lire de tout pour m'ouvrir l'esprit le plus possible.
C'est quelque chose, on sent chez toi, effectivement, cette envie de connaître au-delà de ton propre domaine, mais de connaître le monde, t'y investir, t'y engager. C'est, comment tu dirais, pourquoi tu as ça? Tu aurais pu faire comme la plupart. Bon, je me mets sur Facebook ou sur... TikTok, Instagram, enfin ces trucs-là. Mais non, je sens au contraire... comment t'expliques un peu cette espèce d'envie de t'ouvrir au monde comme ça?
Je sais pas. Je suis juste comme ça. Là. J'aime ça m'ouvrir au monde. C'est difficile de dire d'où est-ce que ça vient, mais je sais que je suis comme ça, puis ça me rend heureuse. Je suis heureuse comme ça, donc ça me tente pas d'arrêter.
Comment on voit le monde quand on a 19 ans, aujourd'hui, une jeune femme qui fait de l'informatique quantique, un domaine donc vraiment très très spécifique dans les sciences. Comment on voit le monde aujourd'hui en Amérique du Nord quand on est une jeune femme de 19 ans dans l'informatique quantique?
C'est un peu large comme question. Oui. Je sais pas comment répondre à ça.
Quels sont un peu les défis que tu vois de demain pour ta génération, justement, par rapport à tout ce que tu as de culture et d'investissement personnel?
Moi, la cause qui touche le plus, c'est l'environnement. Mm-hmm. Je vois les nouvelles, je le vois que le monde, ça va de plus en plus mal et qu'on fait pas d'efforts par rapport à ça. Donc, c'est sûr que...
Et est-ce que justement la technologie et la science ne seront pas la meilleure réponse par rapport à tout ça? Que ça permettra justement des innovations qui finalement répondront aux enjeux environnementaux sans avoir à se passer de du confort, des choses comme ça?
Non, je pense pas que la technologie, ça va aider. Je pense qu'il faut vraiment apprendre à délaisser une partie de notre confort.
Parce que, par exemple, la voiture électrique, par exemple, demain, la voiture électrique... Bon, alors, c'est vrai qu'il y avait la contestation avec les terres rares, lithium, etc. Puis là, boum, ça y est, c'est fini, puisque Renault, un constructeur automobile français, va lancer des batteries qui sont justement sans terres rares, sans lithium, etc., et qui n'auront justement plus, sont plus exposés à cette critique, et permettra justement des voitures propres, mais vraiment, pour le coup, pas voilà. Est-ce que justement la technologie ne va pas permettre de garder ce confort du véhicule individuel tout en répondant à cet enjeu environnemental?
Non, je ne pense pas, parce qu'il reste la question de l'électricité. Ici, notre électricité est verte, donc c'est quand même moins pire, mais ça reste quand même polluant, par exemple, de construire des barrages ou des éoliennes, de construire les voitures, même si la batterie est moins polluante, ça reste que la carrosserie de l'auto, ça consomme beaucoup de ressources.
C'est l'acier.
Donc, la meilleure solution, je dirais que c'est surtout le transport actif, le transport en commun, limiter notre voiture.
Et en même temps, les transports en commun ne peuvent pas répondre aux besoins comme la voiture individuelle.
Ça dépend aussi à quel point le réseau de transport en commun est développé. Ici, au Québec, il ne l'est pas beaucoup, mais dans d'autres villes où le transport en commun est beaucoup plus développé, ça peut vraiment remplacer la voiture individuelle, ou avoir plus de pistes cyclables, ça peut aussi aider, là, mm-hmm. ici, avec nos hivers.
Alors, quand il fait moins 30, ça va être dur, la piste cyclable, là.
C'est plus difficile d'encourager le monde à le faire. Ça se fait quand même d'aller...
Alors après, à Sherbrooke, on a quand même un bon réseau de bus. Hein.
Ouais. Quand même, à Sherbrooke, c'est quand même bon. Oui, toutes les régions au Québec.
Alors, je ne sais pas pour les autres, parce que je ne suis qu'au Québec que depuis le 24 août. Mais c'est vrai que j'utilise les bus, hein, parce que ici, je n'ai pas de voiture. Et ma foi, à part le week-end, c'est un peu plus pénible. Mais c'est vrai que globalement, quand même, il y a un réseau de bus qui est dense, qui nous permet d'aller un peu partout de manière quand même assez facile. Et agréable en plus.
Il y a des villes qui ont des transports en commun encore plus développés où l'autobus passe plus souvent puis va plus directement.
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de train. Enfin, très peu de train entre Sherbrooke, Québec et Montréal, par exemple. Hein, une espèce de triangle. J'ai envie de vous dire, faites des TGV. Surtout que Bombardier est une entreprise qui est quand même très innovante dans le domaine transport. J'étais surpris ça, qu'effectivement il y avait pas de vu les distances qu'il y a en plus, ce serait pour le coup très écologique par rapport aux bus, aux cars.
Ça coûte cher, par exemple, de construire des trains.
Alors voilà, c'est vrai que ça nécessiterait des investissements.
Il y a des transports en autobus qui font de l'interurbain entre Québec et Sherbrooke, puis entre Sherbrooke et Montréal. Mais c'est pas tout à fait pareil au train, là. C'est quand même plus long, ça fait des arrêts un peu...
Alors, c'est vrai qu'en Europe, on a beaucoup développé le train,
plus,
davantage. Alors, c'est vrai que les distances sont plus courtes aussi, c'est différent, voilà. Mais c'est vrai que ça a quand même quelques avantages.
Mais ça se fait quand même, le transport interurbain.
Oui, c'est quelque chose...
C'est moins rapide que l'auto, mais ça se fait quand même.
Oui, tout à fait.
C'est écologique.
Tout à fait. Daphné, il est 19h, notre émission se termine. Ça a été un plaisir, vraiment, de te recevoir.
C'était un plaisir pour moi aussi.
Et je suis épaté, vraiment. Je le dis, vraiment, je suis épaté par tes connaissances, par ton envie de t'ouvrir au monde, par cet engagement personnel très fort. Alors, à travers cette association Frigo, rappelle-nous de nouveau le Facebook de l'association.
Frigo, c'est Frigo, F-R-I-G-O, espace Free, F-R-E-E, espace, go, G-O.
Voilà, donc vous savez tout. Donc, et puis effectivement, entendez le message de Daphné qui est vraiment très bien, très juste. Le gaspillage alimentaire, c'est un vrai problème, ça c'est sûr. Surtout que c'est un problème à la fois écologique, environnemental, mais aussi un problème social. Il y a des gens qui sont dans le besoin et pas soi-même. Veiller chacun à être un peu plus sobre dans notre alimentation alimentaire, ben, c'est ce qui permettra aussi de faire que ce monde devienne meilleur. Et c'est bien que ce soit une jeune femme de 19 ans en informatique quantique qui vienne nous le dire ce soir. Moi, je suis vraiment très, très heureux de vous avoir reçu. C'est un beau message que vous portez et vous le portez avec beaucoup de brio. Je vous remercie beaucoup pour cette très belle émission ce soir du 6 novembre.
Merci.
Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle émission. Et lundi prochain, nous recevrons Mario Beaulieu qui est député québécois. On aura l'occasion de voir ça avec lui. Ben, peut-être qu'on parlera. On posera peut-être une question là-dessus. Tiens, c'est une bonne question, ça. Voilà, je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Et merci encore vraiment mille fois, Daphné, d'être venue à cette émission. Ça a été vraiment un plaisir.
Merci.